et c'est le journal d'Olivia Cohen. Bonjour Olivia.
Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Une plainte bientôt diffusée en France, des confessions forcées soutirées à un prisonnier et montrées à la télé chinoise scandalisent à travers le monde. Reportage à suivre. Inamovible Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien maintenu chef du Likoud, au lendemain de la primaire de son parti et ce, malgré son inculpation pour corruption.
En France, le conflit social sur la réforme des retraites entre dans son 23e jour.
Record battu par rapport à 1995, le trafic sur les rails reste perturbé aujourd'hui. Des élus des partis de gauche seront en gare de Lyon ce midi à Paris pour soutenir les cheminots. Et puis, si la parole est d'argent, le silence est d'or, c'était particulièrement vrai dans le travail de Claude Régis. Le dramaturge nous quitte à 96 ans. Son théâtre radical savait émouvoir les spectateurs les moins avertis. C'est ce que nous racontera l'une de ses fidèles, la star Isabelle Huppert. Et puis, dans la question du jour, Hervé, on revient sur l'affaire Halimi.
Son meurtrier ne sera pas jugé en cour d'assises. Quelle est la mécanique judiciaire qui a conduit à le déclarer pénalement irresponsable? Nous en discuterons avec un juriste, Didier Rebu.
La télévision chinoise attaquée de toutes parts pour la diffusion de confessions forcées, celle de Simon Cheng, cet ancien collaborateur du consulat britannique à Hong Kong, arrêté en août dernier. Des plaintes ont été déposées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La France pourrait suivre cet exemple, Stéphane Pambrin.
T-shirt sale et matricule de prisonnier sur la poitrine, Simon Cheng fait face à plusieurs policiers. On vous a informé que vous pouviez prévenir votre famille et votre avocat. Pourquoi avez-vous refusé ? J'étais trop gêné pour parler à ma famille, répond le détenu, filmé en plan fixe. Alors employé du consulat britannique à Hong Kong, Simon Cheng a été arrêté à la frontière chinoise en août dernier et retenu pendant 15 jours au secret, officiellement pour avoir sollicité les services d'une prostituée. Une mise en scène théâtrale à destination des caméras de la chaîne d'État CCTV et de ses antennes internationales appelées CGTN. La séquence intitulée « Honte à toi » a été diffusée le 21 novembre, au lendemain de son témoignage diffusé sur la chaîne britannique BBC. « On m'a torturé », expliquait-il. Ce n'est pas la première fois que ces séances d'autocritique sont diffusées par les télévisions chinoises. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, la Chine a retrouvé des accents maoïstes. Arrestations arbitraires, tortures, humiliations publiques. Mais cette fois, elle pourrait coûter à la télévision chinoise ses licences de diffusion en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où plusieurs plaintes ont été déposées. La justice française pourrait également être saisie de cette affaire, les confessions de Simon Cheng ayant été diffusées sur les antennes en français de CGTN.
Un reportage signé Stéphane Pambrin. 14 militaires tués dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger. Une attaque menée par des terroristes lourdement armés, selon le ministère nigérien de l'Intérieur. C'est dans cette même région, proche du Mali, que 71 soldats nigériens ont été tués le 10 décembre dernier, pire attaque depuis 2015. Benjamin Netanyahou conserve la confiance des adhérents. Le premier ministre israélien reste chef du Likoud, principal parti de droite dans le pays. Il remporte très largement la primaire organisée hier avec plus de 70% des voix et ce, malgré son inculpation pour corruption. À Jérusalem, les précisions de Léa Berdugo.
Il a dépassé en juin dernier le record de longévité à la tête du pays. Benjamin Netanyahou, l'indéboulonnable, s'en sort une nouvelle fois. Alors qu'il faisait face à une vague de contestation sans précédent au sein de son parti, il remporte ce scrutin interne avec une large majorité. Et cela, malgré son inculpation dans 3 affaires pour corruption, fraude et abus de confiance. Alors il est vrai que Benjamin Netanyahou n'a pas lâché les réseaux sociaux. Le Premier ministre a également multiplié les meetings aux 4 coins du pays, raviver sa base électorale et utiliser la rhétorique populiste et anti-média qu'il affectionne. Une recette qui marche au détriment de son adversaire Gideon Saar, unique voie de contestation au sein du parti, et cela depuis de nombreuses années. Gideon Saar qui a rapidement reconnu sa défaite et promis de mener campagne derrière Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien sera donc celui qui va tenter d'emmener le Likoud vers la victoire aux prochaines élections, mais la tâche est immense pour le chef du gouvernement. Il doit réussir là où il a déjà échoué à 2 reprises, autrement dit, obtenir une majorité de 61 sièges au Parlement.
Record battu en France, la mobilisation contre la réforme des retraites entre dans son 23e jour, c'est plus qu'en 95, seulement 22 jours et le gouvernement avait plié. Alors Stéphane Robert, est-ce que le mouvement aujourd'hui conserve des points communs avec 95 ?
Comme en 1995, c'est la fonction publique qui est à la pointe de la contestation, notamment la SNCF et la RATP. La différence est qu'en 2019, même si la gêne occasionnée reste forte, il y a plus de moyens alternatifs pour se déplacer, trottinettes électriques, vélos en libre-service, covoiturage. Comme en 1995 également, le mouvement conserve jusqu'ici une majorité de soutien dans l'opinion. La différence, en revanche, est qu'il n'y a pas aujourd'hui de dynamique ascendante de la mobilisation. En 1995, des salariés du privé avaient rejoint le mouvement et on avait compté à terme plus de 2 millions de personnes dans les rues. Cette dynamique aujourd'hui n'est pas présente, en tout cas jusqu'ici. Une autre similitude est que la CFDT, comme en 1995, était au départ derrière le projet du gouvernement. Seulement le pouvoir exécutif y a ajouté une mesure financière avec l'âge pivot à 64 ans qui ne faisait pas partie du projet originel du président de la République. Résultat, la CFDT est passée dans le camp des opposants, ainsi que l'a confirmé Laurent Berger vendredi dernier.
Je vous le dis, ça va monter très très fort au mois de janvier sur cet âge pivot, à partir du 6 janvier, parce que on peut pas accepter cette mesure injuste qui est d'abord une mesure de court terme.
En attendant cette date du 6 janvier, le gouvernement joue le pourrissement et essaie d'empêcher d'autres professions de s'agréger à la contestation, comme avec les hôtesses et les stewards qui, après discussion, ont finalement renoncé à se mettre en grève à compter du 3 janvier. Ça n'empêche pas qu'on est désormais parti pour dépasser en durée une autre contestation que celle de 95, le mouvement de grève de l'hiver 86-87 à la SNCF. Celui-ci concernait les salaires et les conditions de travail. Il avait duré jusqu'à la mi-janvier et sans trêve à Noël. À l'époque, les cheminots avaient partiellement obtenu satisfaction.
En ce moment, deux dépôts de bus en Ile-de-France sont bloqués par des manifestants. Et ce midi, des élus des partis de gauche vont se rendre gare de Lyon à Paris pour apporter leur soutien aux cheminots. La SNCF prévoit 6 TGV sur 10 en moyenne, comptez également un intercité sur 3 et 4 TER sur 10. Le Louvre prépare une exposition à partir des œuvres rescapées de l'incendie de Notre-Dame. Ce sera pour 2023. Pour les débris, vitraux, métal, bois, pierre, ils sont étudiés en ce moment au laboratoire de recherche des monuments historiques, c'est à Champs-sur-Marne, près de Paris. Tout le tout pour répondre à deux interrogations, comment les restaurer et surtout comment les débarrasser de leurs particules de plomb. Les tests avancent bien, selon Thierry Zimmer, il est directeur adjoint du laboratoire.
L'ensemble des tests qui ont été faits sont plus que positifs. On descend très largement en dessous des seuils acceptables, puisqu'on part de plusieurs milliers de milligrammes par mètre carré pour descendre sur certains des tests qu'on a fait à 74 milligrammes, alors que la zone acceptable est en dessous de 1000. Donc pour le bois, pour la pierre, la peinture, le métal, on peut déplomber sans aucun problème l'intérieur de la cathédrale, donc avec des mises en œuvre faciles pour une entreprise et qui peuvent être produites sur une grande échelle. Le seul problème, ce sont les vitraux. Les vitraux, de toute façon, effectivement, puisqu'ils sont en résine de plomb, il y aura toujours dessus du plomb. Une petite interrogation qui était importante également, c'est si effectivement les projections de poussière d'eau et cette projection de plomb avaient eu un quelconque impact sur l'orgue. Rien n'a été ni abîmé ni perdu à l'intérieur de la cathédrale, qu'il s'agisse du trésor, des tableaux, etc., etc. Tout est en très bon état, y compris ce qui reste. Il y aura effectivement de déplombage, sans doute des nettoyages après, mais les boiseries, les stalles, la chaire, l'orgue, les deux tableaux qu'on n'a pas pu encore retirer sont en très bon état.
Thierry Zimmer, directeur adjoint du laboratoire de recherche des monuments historiques, joint par Jeanne Dossé. Son silence sera désormais éternel. Le metteur en scène Claude Régis est mort hier à 96 ans. Son travail restera dans l'histoire du théâtre européen du XXe siècle. Exigeant et radical, il a travaillé avec les plus grandes stars. Il a notamment lancé Gérard Depardieu et travaillé avec Isabelle Huppert, qui lui rend hommage. L'actrice avait joué dans deux de ses spectacles, Jeanne au bûcher en 92 à l'Opéra Bastille et Psychose en 2002 au Bouffe du Nord.
C'est un théâtre à la fois d'une exigence folle, d'une émotion et d'une sensibilité extraordinaire. J'ai rencontré énormément de gens qui n'avaient pas tout le temps forcément l'habitude d'aller au théâtre et qui étaient bouleversés par les spectacles de Claude Régis, des gens qui gardaient un souvenir très marquant de Psychose. C'était pas un théâtre sec, c'était un théâtre où il savait mêler à la fois l'abstraction et la sensibilité et l'émotion.
Un théâtre du silence aussi, là où l'homme aujourd'hui plie quotidiennement sous l'extrême rapidité. Lui, il imposait le silence, il imposait la lenteur.
Il imposait le silence, il imposait le noir. tout ce qu'on attend habituellement du théâtre, la lumière, le sens premier, l'explication immédiate. En même temps, il utilisait tous les artifices du théâtre Claude Régis. C'était à la fois radical, mais c'était pas un théâtre simple, pas du tout.
Isabelle Huppert, jointe par Stéphane Capron à 8h40 avec Arnaud Laporte, producteur de La Dispute le soir sur France Culture. On reviendra en détail sur le travail de Claude Régis et également dans la théorie culturelle avec Mathilde Serrel. Et ce matin, France Culture vous parle engagement pour rompre la solitude. C'est dans le hashtag à 7h24. Et oui, en cette période de fête, beaucoup s'engagent pour rompre l'isolement dans lequel vit un Français sur 10, selon un rapport de l'INSEE. Et des initiatives du genre fleurissent sur la toile aussi. Il y a quelques jours, une cagnotte en ligne de 7000 euros a été remise à un sans-abri malade du cancer. On vous en parlera dans le journal de 9h. La météo, sale temps pour les ombrophobes en France. Les ombrophobes, Hervé, vous avez noté, ce sont les phobiques de la pluie, bien sûr. Alors, il pleut partout en France ce matin. Je vous ai appris quelque chose, je suis très fière. Il pleut partout en France ce matin, sauf dans le sud-ouest et la Corse. Attention au brouillard en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. La Charente-Maritime reste maintenu en vigilance orange pour des risques d'inondation. Les températures, seulement 5 degrés à Gap et jusqu'à 12 degrés à Toulon et Cherbourg. Vous écoutez France Culture. Le prochain journal, c'est dans quelques minutes à 7h30.
Merci Olivia Cohen.